Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Un crime récent aujourd'hui. Celui d'Anne-Marie Pignal en 1996, le matin de la Saint-Sylvestre, dans sa villa sur le bord du lac du Bourget, en Savoie. L'enquête va très vite s'orienter vers son fils adoptif, Hugues. Un sacré loustique qui a 40 ans et qui ne travaille pas et qui dépense allègrement la fortune familiale. Les gendarmes vont mettre très longtemps à le coincer. Cette histoire commence pendant les vacances de Noël 1996, en Savoie, à Brisson-Saint-Innocent, la Venise de Savoie, sur les bords du lac du Bourget. Anne-Marie Pignal, qu'on va retrouver morte dans quelques instants, a là une résidence secondaire, une belle maison, au milieu d'un beau jardin, cerné de grands murs de pierre. Et ce matin-là de la Saint-Sylvestre, la maison est encore plus belle. Il est tombé une jolie couche de neige. Et comme tous les jours, le jardinier arrive à 8h. Et c'est bizarre, la porte d'entrée, elle n'est pas fermée à clé. Madame ferme toujours la porte à clé, la nuit, plutôt deux fois qu'une. Il tourne la poignée, il entr'ouvre la porte, et il voit sa patronne étendue sur le sol de l'entrée. La scène est hallucinante, le manche d'un couteau dépasse de sa poitrine. Un film d'horreur. Mais elle respire, elle suffoque, elle est consciente, et elle gémit. J'ai froid, j'ai très froid. Le jardinier n'a rien d'autre sous la main que la nappe de la table de la salle à manger. Il la couvre avec, délicatement. Surtout ne bougez pas, je vais appeler les secours. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est un accident. Allô? Je suis au 7 chemin de la Cure à Brisson. Une femme a été poignardée, venez vite, elle est âgée. Les pompiers d'Aix-les-Bains arrivent très vite. C'est le jardinier qui les accueille. Il la trouve agonisante, mais toujours consciente. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Elle m'a dit que c'était un accident, c'est tout, et puis qu'elle avait froid. Un accident? Peut-être. Bien que ce soit assez rare, les gens qui s'enfoncent un couteau tout entier dans la poitrine, par accident. Donc, les pompiers appliquent la règle. La règle que leur ont enseigné les policiers. Avant de manipuler la dame, avant de la mettre sur la civière, ils mettent une protection en plastique sur le manche du couteau. Pour protéger les empreintes, s'il y en a. Puis ils la chargent dans l'ambulance et l'amènent toute sirène hurlante à l'hôpital de Chambéry. Et pendant le trajet, ils lui parlent pour qu'elle reste consciente, c'est normal. Il ne faut pas qu'elle sombre dans le coma avant d'arriver à l'hôpital. Que vous est-il arrivé, Madame Pignal? J'ai froid. J'ai mal. J'ai froid. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce couteau s'est retrouvé planté dans votre poitrine? Ils étaient deux. Les pompiers se regardent. Ils en étaient restés à la version de l'accident. Bon. Ils arrivent à l'hôpital. Le diagnostic des urgences est très clair. Pronostic vital engagé. Si elle s'en sort, c'est un miracle. Avant de l'opérer, il faut d'abord la passer à la radio. Il faut voir l'étendue des dégâts. Le radiologue n'en croit pas ses yeux. La lame est tellement longue qu'elle a atteint la colonne vertébrale. Elle a perforé le poumon, mais c'est pas tout. C'est un couteau à décongélation. Un couteau à dents, acéré, en général très aiguisé. Retirer un couteau comme ça, c'est très, très délicat. Elle n'y survivra pas. Anne-Marie Pignal décède pendant l'opération. Elle avait 76 ans. Elle était veuve. Et surtout, elle était riche. Feu son mari, Félix Pignal, était PDG d'Hitachi France. Elle laisse un patrimoine de plusieurs dizaines de millions de francs. Et dans la foulée, forcément, y a une enquête. Parce que les pompiers, évidemment, ont raconté à la police ce qu'elle leur avait dit. Ce que leur avait dit aussi le jardinier. Alors soit c'est un accident, soit ils étaient deux. Mais c'est pas la même histoire. C'est la brigade de recherche de la gendarmerie de Chambéry qui est à la manœuvre. Et ils sont comme vous, ils sont comme moi. D'emblée, ils pensent qu'un couteau à décongélation enfoncé jusqu'à la garde au point de toucher la colonne, bah il y a peu de chances que ce soit un accident. Les gendarmes filent directement chemin de la Cure à la villa. Aucune trace d'effraction. À l'intérieur, tout est en ordre. Sur la table de nuit de Madame Pignal, il y a même 6500 francs en espèces, comme ça, posés. Un cambrioleur les aurait emportés, sauf s'il a été dérangé et qu'il n'a pas eu le temps d'aller dans la chambre. Dehors, ce qui est intéressant, c'est la neige. Si quelqu'un est passé par le jardin, il y aura des traces de pas. Il n'y en a pas. Sauf bien sûr dans l'allée centrale, mais là, il y a eu les pompiers, le jardinier, et maintenant les gendarmes. L'allée qui mène à l'entrée de la villa est devenue inexploitable. Donc rien pour l'instant à tirer de la maison. Le couteau maintenant. Vous vous souvenez que les pompiers ont pris toutes les précautions pour protéger d'éventuelles empreintes sur le manche. Les pompiers. Les médecins, c'est une autre histoire. Quand il s'est agi d'enlever le couteau, les empreintes, bah c'était pas leur premier souci. C'était même pas leur souci du tout, d'ailleurs. Ils ont aspergé le couteau de désinfectant. Il n'y a plus rien à en tirer. La pièce à conviction numéro 1 est inexploitable. Voilà. Quand il n'y a pas de piste dans une affaire, les gendarmes se replient en général sur ce qu'ils appellent l'entourage. Faire l'entourage. Ça consiste tout simplement à aller voir tous les gens qui gravitent autour de la victime. Employés, famille, amis et éventuelles relations d'affaires. Et on commence bien sûr par le jardinier puisqu'il est là. Et que c'est lui qui a découvert le corps. Et que c'est à lui qu'elle a dit « c'est un accident ». Le jardinier, Madame Pignal était son principal employeur. Et en vérité, il n'était pas que jardinier. Il allait la chercher à la gare quand elle arrivait, il l'accompagnait quand elle partait, c'est lui qui veillait sur la villa, il s'occupait de son entretien. Et tout le monde dit qu'elle l'aimait beaucoup, qu'il s'entendait très bien, qu'il est très dévoué. Et en plus, franchement, quel serait son mobile ? La conséquence pour lui, c'est qu'il est au chômage. Et en plus, il a l'air vraiment peiné. La piste du jardinier est vite abandonnée. Mais il a dit quelque chose de bougrement intéressant au cours de son interrogatoire. C'est au sujet du couteau. « Ah ben le couteau ! Ah ben je le connais, hein, c'est un couteau qui se trouvait dans la cuisine de Madame Pignal. Je l'ai jamais utilisé, mais je sais qu'il était là. » Ce que confirme Madame Buffo, qui est une amie de Madame Pignal, le couteau était à elle. Et elle raconte une drôle d'histoire qui s'est passé un jour où elles prenaient le thé, toutes les deux. C'est au sujet du couteau. Un jour, je lui ai demandé si elle n'avait pas la frousse de rester toute seule dans cette grande villa. Eh ben, elle est allée à son vaisselier. Elle l'a sorti du tiroir, ce couteau. Et elle m'a dit, « Bien sûr que je n'ai pas la frousse. S'il le faut, j'ai ça. Je peux me défendre. » Ouais. Oui, je suis certaine que c'était ce couteau-là. C'était donc son couteau et elle avait l'intention de s'en servir. Les résultats de l'autopsie viennent de tomber. Elle n'a reçu qu'un seul coup de couteau, le coup mortel. La lame a emprunté un trajet du haut vers le bas. Ça peut vouloir dire que l'agresseur était plus grand que la victime. Et les légistes écartent absolument la possibilité d'un accident. Même en tombant, on ne peut pas s'enfoncer un couteau de cette façon. Le juge a aussi demandé aux légistes si, à leur avis, compte tenu de son état, elle avait assez de discernement quand elle a dit aux pompiers dans l'ambulance qu'ils étaient deux. Leur réponse est mitigée. Genre, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Il y avait la douleur, elle était choquée. En fait, ils ne savent pas. À part ça, qui avait intérêt à ce qu'elle disparaisse ? Les gendarmes continuent de faire l'entourage, selon l'expression consacrée. Et maintenant, ils ont une évaluation précise de la fortune d'Anne-Marie Pignal. 70 millions de francs, si on compte son domicile parisien dans le 16e, sa villa savoyarde et tout ce qu'elle possède au Maroc, plus les liquidités et les placements. Qui hérite ? Bah, ses enfants. Deux enfants. Un garçon, Hugues, une fille, Hélène. Adoptés tous les deux en 1961. Et tous les deux habitent dans la région, à Aix-les-Bains, c'est pas loin. Il leur faut 2 secondes pour expliquer que l'argent, il n'en manquait pas. Car elle partageait avec eux un compte dit Indivi, sur lequel il y avait 12 millions de francs, 1,8 million d'euros. En gros, sous réserve de prévenir maman, il tapait dedans comme il voulait, quand il voulait. Pas mal. Et donc, aucune raison de tuer pour hériter. Même si les gendarmes s'aperçoivent vite qu'Hugues est un flambeur. Il a zappé la bonne éducation que lui ont donné ses parents. À Brison-Saint-Innocent, tout le monde dit qu'il dépense beaucoup d'argent et qu'en plus, il frime. Du coup, début 1997, les gendarmes commencent à s'intéresser à lui, Hugues Pignal. Il est gérant d'un squatch à Aix-les-Bains, tout à côté. 3 enfants, 2 divorces et 1 nouvelle compagne. Et des problèmes d'argent. Son squatch, c'est un gouffre. Il bouffe de l'argent tous les mois. Mais ça ne l'empêche pas de flamber. Et de tout ça, sa mère était au courant. Et pour cause, c'est elle qui payait les pensions alimentaires de ses petits-enfants. Parce que lui, c'était le cadet de ses soucis. On dit dans la famille que le père, Félix, disait de son fils Hugues « Après moi, il bouffera tout !» Et il avait vu juste le père. Quand il est mort en 1992, les deux gosses ont touché chacun 1 million d'euros. Hugues, il a tout bouloté, tout. Et après, il a gratté 4 millions supplémentaires à sa mère. Il y a des gens comme ça. On en a tous dans nos familles qui sont incapables de faire des économies. Du coup, vous voyez ce qui se profile. L'histoire du fils adoptif qui tue sa mère pour toucher plus vite l'héritage. Alors on gratte et on s'aperçoit que c'était tendu entre la mère et le fils. Sa manière de vivre sans compter ne plaisait pas à la mère, évidemment. Et le fils a 40 ans, que sa mère lui fasse en permanence la leçon, ça ne lui plaisait pas non plus. On raconte aux gendarmes des repas de famille qui ont viré au pugilat entre la mère et le fils. Mais ça aussi, hein, ça arrive dans toutes les familles. Non, ce qui achève de convaincre la juge, c'est la découverte que la veille du meurtre de sa mère, Hugues a reçu un avis d'huissier. Le sommant de payer en montant de 100 000 francs, correspondant au loyer impayé de son squatch. Donc, il avait un besoin urgent d'argent. Dernière chose, il y en a qui disent qu'à l'annonce de la mort de sa mère, il a manifesté l'indifférence la plus complète. Vous vous souvenez que le soir de la découverte du corps, c'était le réveillon de la Saint-Sylvestre. Eh bien, il est allé picoler et danser toute la nuit, jusqu'à 4 heures du matin. Ah, une dernière pour la route. Dans l'agenda de Madame Pignal, à la date du 31 décembre, entre 7h30 et 8h30, il est écrit « Hugues, garage ». Le 9 janvier 1997, soit 10 jours après la mort de sa mère, Hugues Pignal est placé en garde à vue. Et une première question toute simple. Que faisiez-vous le 31 décembre dernier entre 7h et 8h du matin, l'heure du crime? Je me suis levé tôt, je dirais vers 6h30. J'ai pris ma voiture et je suis allé acheter des croissants et des pains au chocolat et le journal. Et puis je suis allé me recoucher auprès de Viviane, ma compagne. Ah, je me suis arrêté au bistrot pour boire un café et j'y pense, au bureau de tabac, là où j'ai acheté le journal. Il y avait Monsieur Chavannes, appelez-le. Il vous dira qu'il m'a vu. Donc, il était en vadrouille au moment où sa mère est assassinée. Les gendarmes lui demandent où il a acheté ses croissants, ses pains au chocolat et son journal. C'est à l'autre bout de la ville. C'est bizarre. Il dit qu'il avait rendez-vous avec une amie, la patronne d'un vidéoclub qui est dans ce coin-là. Après 24 heures de garde à vue, les gendarmes se disent que c'est lui, c'est probablement lui l'assassin, mais pour l'instant, ils n'ont pas assez de preuves. Inutile de gâcher du temps de garde à vue, ils le relâchent. Mais ils le gardent à l'œil et en l'occurrence à l'oreille. Il est placé sur écoute et il a l'air de s'en douter. Ça s'entend, il est sur ses gardes. Au passage, les gendarmes découvrent que c'est un coureur de jupons. Des maîtresses à tous les coins de rue. Sachant qu'il vit avec Viviane, à qui il a fait des promesses de mariage. Et d'ailleurs, il vient de lui acheter une parfumerie et il s'est pris pour lui une nouvelle maison à Aix-les-Bains. Il en profite bien de son héritage. Les gendarmes font le calcul. Pendant les premières semaines où ils le surveillent et l'écoutent, il craque 100 000 francs de liquide. 15 000 euros en liquide. Faut y aller. L'argent passe en restaurant, en salon de massage et de bien-être, sans oublier les cadeaux à ses maîtresses, ses voitures de sport et son bateau sur le lac du Bourget. Et ses voyages en Corse et au Maroc. C'est un épicurien, Hugues Pignal. Voilà donc ce que plusieurs mois d'écoute et de surveillance des gendarmes ont permis de découvrir au sujet de Hugues Pignal. C'est un coureur de jupons, c'est un père de famille absolument indifférent à ses enfants, qui ne verse pas de pensions alimentaires et qui profite de la vie sans se soucier des aspects matériels. Mais est-ce que ça en fait pour autant un assassin ? Eh bien peut-être, parce que la voisine de Madame Pignal vient dire tout net aux gendarmes. Hugues ? Il faisait peur à sa mère, bien entendu. Elle savait bien, Madame Pignal, qu'il pouvait devenir dangereux. Un jour qu'on en a parlé, elle m'a dit « Je vais quand même pas prendre des gardes du corps. » Ça, c'est pas bon pour lui. Ça fait 5 mois que les gendarmes enquêtent sur Hugues Pignal. Et ils vont s'offrir un rebondissement totalement inattendu. Au mois de mai, dans une affaire de stupéfiants, ils tombent sur un certain Philippe Couvert. Et le hasard fait que l'oiseau est l'ancien gérant du squatch que gère Hugues Pignal. Il le connaît bien. Et c'est drôle le hasard. Il a des choses à dire et à révéler sur le crime. Ben, je suis allé un jour au Pavillon, à Aix-les-Bains, c'est un bistrot. Et j'ai entendu une conversation. C'était entre Hugues Pignal et un gars qui s'appelle Patrick Ballant. Il savait pas que je les entendais. Ballant reprochait à Pignal de l'avoir mis dans la galère. Il disait que maintenant, il fallait qu'il l'aide à s'en sortir. Et puis après, ben Pignal est parti. Je suis allé voir Ballant. Je lui ai dit que j'avais entendu. Il m'a dit qu'il était impliqué dans la mort de Madame Pignal. Mais il m'a pas donné plus de détails. Ça, c'est du lourd. Même s'il y a un contexte, hein, Pignal et Couvert se détestent. Attention. Et puis, les gendarmes écoutent Hugues Pignal depuis 6 mois... Et pas une seule fois, il n'a appelé ou été appelé par ce Ballant. Pas une fois. Pendant ce temps, les gendarmes surveillent le bar. Et ils constatent que, effectivement, Pignal et Ballant le fréquentent tous les deux. Et pour le coup, ça colle bien avec les derniers mots de Madame Pignal dans l'ambulance. Ils étaient deux. Ils auraient fait ce coup à deux. Le 3 juin 1997, les gendarmes placent Patrick Ballant en garde à vue. Et tant qu'à faire, ils mettent Pignal en garde à vue lui aussi. Chacun dans un bureau. Les accusations de Couvert. Ils disent tous les deux la même chose. Philippe ? Oh ben ce qu'il dit est impossible, on se connaît. Si on l'avait vu au bistrot, on serait allé à sa table. Hugues Pignal va même plus loin. Il n'a pas digéré que j'ai repris son squatch. Il m'en veut tellement que ça m'étonnerait pas qu'il ait tué ma mère pour se venger. Qu'à cela ne tienne, on place aussi Philippe Couvert en garde à vue. Et on le met face à Patrick Ballant. Monsieur Ballant, avez-vous fait des révélations à Monsieur Couvert au sujet de la mort de Madame Pignal ? quand vous l'avez vu à la brasserie Le Pavillon. Alors toi, ordure, va. Non seulement je t'ai pas fait de révélation, mais en plus, si j'avais eu à en faire, je les aurais certainement pas faites à un baltringue dans ton genre. Parole contre parole. Et pas d'éléments matériels. Les gendarmes les relâchent donc tous. Et maintenant, ils placent Balan sur écoute. Et au fil des semaines, ils s'aperçoivent que Pignal et Balan sont cul et chemise. Depuis leur garde à vue, ils sont inséparables. Pignal paye même un studio à l'une des maîtresses de Balan. C'est dire. À un moment donné, il remonte l'historique du téléphone de Balan. Le jour du meurtre. Et il s'avère que le 31 décembre, il s'est levé très tôt. Premier SMS à 6h45. Alors que d'habitude, le feignant n'émerge pas avant 9h et même 10h. Alors à qui a-t-il envoyé ce SMS de bon matin? Il l'a envoyé à un tatou, un beeper. Oui, ça existait au Moyen-Âge, ça se portait à la ceinture, ça recevait uniquement des messages. Le problème, c'est que le tatou en question est enregistré sous un faux nom à une fausse adresse. Mais il se trouve qu'une compagnie d'assurance a envoyé un message sur ce beeper. On lui demande à qui elle a envoyé le message. Elle répond à un certain Jean-Claude Hardy. Un de plus qui est placé sur écoute. Avec cette idée désormais, ils étaient trois à faire le coup. Pignal, son inséparable Balan, et Hardy, qui vient d'apparaître dans l'histoire. Ce Hardy, comme Balan, c'est quelqu'un qui joue de temps en temps les videurs dans les boîtes de nuit de la région d'Aix-les-Bains. Mais il ne travaille pas souvent. Il est censé être fauché. Or, ces derniers temps, il apparaît qu'il mène grand train, il voyage, il craque de l'argent. Est-ce qu'il n'aurait pas lui aussi profité de l'héritage? Et du coup, est-ce qu'il ne serait pas complice de ce meurtre? Les gendarmes vont mettre plus de 2 ans à base d'écoutes téléphoniques pour prouver que Hardy, lui aussi, connaît Hugues Pignal. Et Hardy est à son tour placé en garde à vue, toujours avec cette question. Qu'avez-vous fait le 31 décembre 1996? Ah ben j'y suis pour rien, moi! Il n'y est pour rien. Et il ne connaît pas Hugues Pignal. Les gendarmes lui mettent sous le nez le procès-verbal d'écoute qui prouve bien qu'il connaît Pignal. Et là, il craque. Oui, ce jour-là, il avait rendez-vous avec Hugues Pignal. C'est Balan qui l'avait mis sur le coup. Mais il ne s'agissait que de déménager des meubles. Ben, c'était prévu que je l'aide à déménager des meubles. Il m'avait promis 200 ou 300 francs pour faire le déménagement. Ce qui colle bien avec la notation retrouvée dans l'agenda d'Anne-Marie Pignal à la date de sa mort. Hugues, garage. Les meubles devaient être rangés dans le garage. Et après, Hardy déroule. Et il raconte sa version de ce qui s'est passé avant 8h, chemin de la Cure, à Brison-Saint-Innocent, le 31 décembre 1996. Le trio, Hugues Pignal, Patrick Balan et Jean-Claude Hardy, est arrivé à la villa en voiture vers 7h pour déménager des meubles que la mère avait descendus de Paris pour son fils. Et Hardy dit que Balan et lui sont restés dans la voiture et que Hugues Pignal est rentré seul dans la villa. Et Hardy dit qu'il a entendu des cris et qu'ils se sont précipités à l'intérieur, Balan et lui, et qu'ils ont vu Madame Pignal étendue sur le sol avec un couteau dans la poitrine. Et Hugues Pignal qui disait « Mais c'est un accident! Mais c'est un accident !» Évidemment, il n'était plus question de déménager les meubles. Alors ils sont repartis, tous les trois. Et dans la voiture, Pignal aurait dit plusieurs fois « Mais c'était un accident! Mais c'était un accident !» Et après, Pignal aurait tout simplement acheté leur silence à tous les deux. Il leur aurait donné de l'argent pour qu'ils la ferment. Hardy dit qu'il a reçu 100 000 francs, 15 000 euros. Ce qui explique son incroyable train de vie dans les semaines qui suivent la mort de Madame Pignal. À la fin de l'interrogatoire de Jean-Claude Hardy, les gendarmes sont assez convaincus par sa version. À une réserve près, elle ne colle pas avec les dires de Madame Pignal dans l'ambulance. Ils étaient deux. Et là, dans cette version, il était seul. Mais bon, les médecins ont bien dit qu'elle était peut-être dans le coltard et qu'il ne faut pas prendre ce qu'elle a dit à ce moment-là pour argent comptant. Hugues Pignal ne serait donc pas, comme il l'a raconté lui-même, sorti de bon matin pour acheter des croissants et le journal avant d'aller se recoucher à côté de sa femme. Selon la version de Jean-Claude Hardy, lui et Ballan étaient dehors près du portail quand Hugues Pignal a tué sa mère. Mais comment être certain de cette version? Est-ce que l'un d'eux n'était pas avec Pignal? Est-ce que les deux n'étaient pas avec Pignal? Est-ce que même l'un des deux ne serait pas l'assassin sans Pignal? Patrick Ballan est à nouveau placé en garde à vue, prié de confirmer, d'infirmer la version de son copain Hardy. « Monsieur Ballan, demande le juge, étiez-vous présent à la propriété au moment du meurtre ?» La réponse de Ballan est sidérante. « Me parle pas, vieille pute, va. T'es moche, t'es incompétente, retourne élever tes mouflets, t'es bonne qu'à ça. » Outrage à magistrat. Son avocat lui fait remarquer que s'il continue comme ça, il va filer tout droit en prison. Au cours d'un interrogatoire en mai 2000, il finit par concéder qu'il a servi d'intermédiaire. C'est lui qui a présenté Hardy à Hugues Pignal. Mais il maintient qu'il ne savait pas que c'était pour autre chose qu'un déménagement. Et il dit qu'il n'était pas présent le 31 décembre 96 à la villa. Et ça dure comme ça pendant des mois. Jusqu'à ce qu'un jour, la juge les confronte tous les trois et qu'à la fin, Ballan vienne lui murmurer à l'oreille. « La vérité, madame le juge, elle est à votre gauche. » Et à la gauche de la juge, il y a Jean-Claude Hardy. Après 3 ans et demi d'instruction, l'enquête est terminée. Ils sont renvoyés tous les trois devant la cour d'assises. Hugues Pignal pour assassinat, Ballan et Hardy pour non-assistance à personne en danger. Ils attendront tous les trois libres ce procès qui s'annonce. Mais avant le procès, il va y avoir un dernier rebondissement. Un jour, Patrick Ballan est en bateau avec sa femme sur le lac du Bourget.
Pompier de Chambéry, j'écoute.
Allô ? Oui, je suis en bateau. Je suis en bateau sur le lac du Bourget, pas très loin d'Aix. Mon mari est tombé à l'eau. Je ne le trouve plus.
Donnez-moi votre localisation, madame.
En plein mois de juillet, Patrick Ballan serait tombé de son bateau, mais son corps est introuvable. On envoie un robot plongeur, rien. Quand Jean-Claude Hardy apprend la nouvelle, il ne peut pas le croire. Patrick ? Mais il est champion de plongée ! On se dit alors que Ballan s'est fait la malle avant le procès en faisant croire qu'il s'était noyé. Évidemment, on cherche à savoir où était Hugues Pignal au moment de cette chute dans l'eau du lac. Il était à la gendarmerie, figurez-vous, en train de signer son contrôle judiciaire. Alibi en béton. Le procès Pignal s'ouvre enfin le 27 mai 2002, soit presque 6 ans après la mort d'Anne-Marie Pignal. Et sur le banc des accusés, évidemment, ils ne sont que deux, puisque Ballan a disparu. Il y a Hugues Pignal et Jean-Claude Hardy. Et très vite, le procès devient celui d'Hugues Pignal, dont le portrait, il faut le dire, est peu flatteur. Avide d'argent, dépensier, arrogant. Les experts psychologues expliquent certains de ses comportements par le fait qu'il ait été adopté et qu'ils ne connaissent pas ses origines. Au moment du verdict, Hugues Pignal prend 20 ans de réclusion criminelle et Jean-Claude Hardy, une seule année de prison. Hugues Pignal décide de faire appel. Il pense qu'il peut réduire la peine de moitié. Un nouveau procès a donc lieu devant la cour d'assises de Lyon en octobre 2003. Mais la peine de Chambéry est confirmée. À nouveau, Hugues Pignal écope de 20 ans. Et il perd son droit sur l'héritage de sa mère. Il restera dans cette affaire une part de secret que détient peut-être Patrick Balland dans son repos éternel au fond du lac du Bourget, ou plus sûrement sous le soleil des tropiques.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.